Bonjour et bienvenue, 15h TU 17h, ici à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
À la une de ce journal, l'offre de Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Il propose des négociations directes la semaine prochaine en Turquie, mais sans se prononcer sur la trêve que réclament l'Ukraine et ses alliés. Entre l'Inde et le Pakistan, le cessez-le-feu est respecté. Aucun des deux pays ne fait état d'incident armé ce dimanche. Dans le dossier du nucléaire iranien, fin de la quatrième session de négociations entre l'Iran et les États-Unis, les Américains se disent encouragés et les Iraniens qualifient les pourparlers de difficiles. Autre négociation en cours à Genève, les États-Unis et la Chine cherchent à surmonter leur guerre commerciale. Des négociations directes entre la Russie et l'Ukraine dès jeudi prochain à Istanbul en Turquie. C'est donc la contre-proposition de Vladimir Poutine après plus de 3 ans de guerre en Ukraine. L'Ukraine et ses alliés occidentaux ont de leur côté demandé hier à Moscou un cessez-le-feu complet et sans condition dès demain lundi. L'offre de Vladimir Poutine a été fraîchement accueillie par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il ne veut pas discuter avant une trêve, mais il a aussi parlé de signes positifs. La Russie en tout cas s'expose à de nouvelles sanctions massives aux yeux du ministre français des Affaires étrangères. Jean-Noël Barrot était aujourd'hui l'invité de France Inter, France Télévisions et le journal Le Monde. Un extrait.
Les sanctions infligées par les Européens depuis 3 ans sur l'économie russe ont coûté à Vladimir Poutine 400 milliards d'euros. C'est l'équivalent de 3 années de budget de guerre. Et nous pouvons aller plus loin. Je me suis entretenu il y a 10 jours avec le sénateur américain Lindsey Graham, proche de Donald Trump, qui a préparé un paquet de sanctions massifs avec des droits de douane de 500% sur le pétrole et sur les pays qui importeraient du pétrole russe. Nous avons décidé hier avec les Européens qui se sont retrouvés à Kiev de nous coordonner avec ces sénateurs américains qui veulent accentuer la pression pour que le cessez-le-feu puisse intervenir et que les négociations puissent commencer sereinement. Et les messages deviennent très clairs, en provenance de l'Europe, en provenance des États-Unis. Si Vladimir Poutine ne consent pas au cessez-le-feu, alors des sanctions massives s'abattront sur lui.
Jean-Noël Barrot, invité ce dimanche de France Inter, France Télévisions et Le Monde. Interrogé par ailleurs sur l'Algérie, il a estimé que la relation avec la France restait totalement gelée. Mi-avril, 12 fonctionnaires français ont été brutalement expulsés par Alger. Paris a ensuite répliqué par une mesure similaire. Dans le dossier du nucléaire iranien, une quatrième session de pourparlers vient d'avoir lieu à Oman entre négociateurs iraniens et américains. Discussion difficile mais utile, a commenté sur X le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Dans ce dossier, Téhéran réclame la levée des sanctions et la reconnaissance de son droit à l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Entre l'Inde et le Pakistan, le cessez-le-feu est respecté. Aucun incident armé ne nous a été rapporté depuis ce matin. Déclaration à la presse d'un officier supérieur pakistanais. Hier, les deux voisins ont accepté de cesser leurs hostilités après 4 jours de violence qui ont coûté la vie d'une 60aine de civils. En Pologne, à l'approche de la présidentielle, dans une semaine, la droite conservatrice est descendue dans la rue hier soir à Varsovie. Ils étaient quelques milliers rassemblés contre l'immigration et contre le gouvernement pro-européen de Donald Tusk. Reportage de notre correspondant Adrien Sarla.
Ici, c'est la Pologne et on n'est pas d'accord. Son drapeau rouge et blanc à la main, Eva se dépêche de rejoindre la foule de gens massés devant l'estrade. Cette retraitée de 62 ans a fait 4h30 de voiture, spécialement pour venir manifester contre l'immigration, même si elle dit ne rien avoir contre les réfugiés ukrainiens.
Ils habitent et ils travaillent ici, ce sont des gens normaux. Mais les réfugiés qui arrivent de l'Ouest viennent d'Afrique. Ils sont dangereux, ils ne travaillent pas et ce sont des meurtriers. Moi, je vote pour Navrotsky, le candidat du PiS, et je sais qu'il ne les laissera pas entrer.
Des propos racistes qui résument bien l'ambiance de la campagne présidentielle gangrénée par les fausses informations sur la question migratoire. Même le candidat de la majorité, pourtant réputé libéral, a fini par durcir son discours à l'égard des réfugiés ces derniers mois, mais pas assez pour convaincre Piotr.
Ils soutiennent le pacte migratoire européen, même s'ils font croire qu'ils sont contre. On sait comment ça a fini en Europe de l'Ouest. On sait bien qu'on n'y vit plus en sécurité aujourd'hui.
À 8 jours du premier tour, le maire de Varsovie, Rafał Trzaskowski, est donné favori, avec 33% des intentions de vote. Adrien Sarla, Varsovie, RFI.
C'est un dimanche électoral en Albanie, petit pays des Balkans, élection législative. Face à face, le Premier ministre sortant, le socialiste Edi Rama, et une opposition aussi large que déterminée à le faire chuter. Elle l'accuse régulièrement de lien avec le crime organisé. Trois jours après son élection, le nouveau pape Léon XIV est pour la première fois plié au rite de la prière dominicale. C'était à la mi-journée, depuis la basilique Saint-Pierre de Rome, devant une foule où se mêlaient fidèles et touristes. Et Léon XIV a lancé un appel aux grandes puissances pour qu'il n'y ait plus de guerre dans le monde. Direction maintenant la Colombie, où commence une nouvelle vie pour l'ancien président panaméen Ricardo Martinelli. Condamné pour blanchiment d'argent, il a obtenu l'asile à Bogota, où il est arrivé hier soir, après avoir passé 15 mois d'ambassade du Nicaragua au Panama. Le gouvernement panaméen a accordé un sauf-conduit à cet homme politique très populaire et qui ne cesse de partager sa vie privée sur les réseaux sociaux. Arim Lipold.
À peine arrivé à Bogota, Ricardo Martinelli s'est offert un bain de foule en mode nocturne. Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, on le voit danser dans un bar de la capitale colombienne. Ambiance détendue, musique à fond, comme si de rien n'était. Une scène qui ne devrait pas plaire aux ONG qui ont vivement critiqué la décision du gouvernement panaméen de laisser partir l'ancien président. Car Ricardo Martinelli traîne de lourdes casseroles, corruption, espionnage illégal, détournement de fonds. En 2023, il a été reconnu coupable de blanchiment d'argent et condamné à 11 ans de prison. Un comble pour celui qui s'était fait lire en 2009 sur un programme anticorruption. L'an dernier, pour éviter son arrestation, l'ancien président s'était réfugié à l'ambassade du Nicaragua à Panama. Et même retranché, il continuait à partager son quotidien sur les réseaux sociaux. On le voyait faire du sport, se détendre dans un jacuzzi ou encore organiser des barbecues. Toujours aussi populaire dans son pays, Ricardo Martinelli nie en bloc toutes les accusations et tout porte à croire qu'il continuera à documenter sa nouvelle vie, cette fois depuis la Colombie.
On commençait hier, les pourparlers commerciaux États-Unis-Chine se sont poursuivis aujourd'hui à Genève, dans la villa très cossue et ultra protégée d'un haut diplomate suisse. Les deux grandes puissances économiques cherchent à se mettre d'accord sur les droits de douane punitifs qui menacent le commerce mondial. La délégation américaine s'est montrée optimiste, la chinoise plus discrète. Les sports enfin, avec pour commencer, une fois n'est pas coutume, un résultat de moto sur le circuit du Mans et sous la pluie. Le français Johan Zarco sur Honda s'est adjugé le Grand Prix de France aujourd'hui devant des dizaines de milliers de supporters tricolores. En Espagne, actuellement, le Classico, le quatrième de la saison entre Barcelone et le Real Madrid. Le Real qui a perdu lors des trois premiers Classico de la saison. Football toujours, une semaine après sa victoire à Martigues. Le Paris FC a pu enfin célébrer sa montée en Ligue 1 avec ses supporters. Le club francilien jouait hier son dernier match en deuxième division contre Ajaccio, victoire 2-0. Pour l'occasion, le stade de Charletti affichait complet. Les supporters du Paris FC ont savouré leur joie sous les yeux de Saliou Diouf.
C'était un jour historique, un jour de fête pour Ismaël, supporter du Paris FC.
Que du bonheur, ça fait deux ans que je suis le club, un an que je suis carté ici et franchement ça fait plaisir de voir le club monter en Ligue 1.
Le club va vivre un changement radical cet été, fini les matchs au stade Charletti où il évoluait depuis 2007, direction l'Est parisien, Ismaël a hâte.
Jean-Brun, c'est un grand changement pour le Paris FC et on espère de meilleures choses encore pour l'avenir.
Sur le plan sportif, il aimerait que son équipe affiche déjà de grandes ambitions la saison prochaine.
Peut-être à la fin de la saison, une arrivée en Europa League.
Les ambitions, il faudra en avoir pour faire bonne figure en Ligue 1, mais chaque chose en son temps pour Antoine Arnaud, le prestigieux nouvel actionnaire du club.
On va d'abord célébrer avec les joueurs et avec tout le staff. Et ensuite, on se posera autour d'une table et on réfléchira à la saison prochaine. En tout cas, les fondamentaux sont excellents et la base est très très bonne.
Le club a prévu un budget de 80 millions d'euros. C'est un budget similaire à Nantes, installé en Ligue 1 depuis plusieurs années.
Enfin en tennis, au tournoi de Rome, le français Arthur Fils est en huitième de finale après avoir battu aujourd'hui le grec Tsitsipas. Son prochain adversaire est l'allemand Zverev, autre qualifié français pour les huitièmes de finale. C'est Moutet qui lui a battu le danois Rune. Bonne journée sur RFI, elle continue avec En sol majeur.